Chapitre 66, besoins émotionnels. Raison de l'existence, la loi de Dieu est une loi d'amour. Il nous a entourés de beauté pour nous enseigner que nous ne sommes pas sur la terre uniquement pour bêcher, planter, construire, scier et filer, mais pour apporter, comme les fleurs, de la joie et de la lumière, avec l'amour du Christ, dans la vie de ceux qui nous entourent. L'amour, un principe fondamental, l'amour doit être le principe de l'action. Il est l'essence même du gouvernement divin sur la terre et dans les cieux. Il faut aussi qu'il soit à la base du caractère chrétien, car c'est le seul élément qui puisse le rendre inébranlable et lui permettre d'affronter victorieusement l'épreuve et la tentation. Cultiver l'amour, l'amour pour Dieu et l'amour les uns pour les autres doit être cultivé, car il est aussi précieux que l'or. Nous devons refléter l'image d'une religion pure et sans tache qui, tant dans sa nature que dans ses exigences, est l'opposé de l'égoïsme. L'amour dont le Christ a donné l'exemple est sans pareil. Sa valeur dépasse celle de l'or, de l'argent ou des pierres précieuses. Nous devons prier en vue de recevoir l'amour que le Christ possédait et le rechercher. Le chrétien qui le possède manifeste un caractère qui dépasse toutes les faiblesses humaines. Le besoin d'amour, la raison pour laquelle il y a tant d'hommes et de femmes au cœur dur vient de ce que l'affection véritable a été considérée comme de la faiblesse, qu'elle a été découragée et réprimée. Le meilleur côté de ces personnes a été faussé et atrophié dans leur enfance, et à moins que les rayons de la lumière divine ne dissipent leur froideur et leur égoïsme inflexible, le bonheur de telles personnes est à jamais perdu. Si nous voulons avoir un cœur tendre, comme celui que Jésus avait quand il était sur la terre, et une sympathie sanctifiée comme celle que les anges avaient à l'égard des pécheurs mortels, nous devons cultiver la sensibilité de l'enfance, qui est la simplicité même. Le cœur, une source d'amour, ni frère ni sœur qu'a. N'en fait l'expérience qui consiste à faire des sacrifices pour la vérité, à être riche en bonnes œuvres et à se faire des trésors dans le ciel. Leur sympathie, leurs attentions et leur patience n'ont pas été mises en œuvre par des enfants soumis et aimants. Ils se sont laissés guider par leur convenance personnelle. Leur cœur n'a pas été une source produisant des ruisseaux vivants de tendresse et d'affection. En faisant du bien aux autres par des paroles d'amour et par des actes de bonté et de bienveillance, ils en retireraient une bénédiction pour eux-mêmes. La sphère de leur utilité a été trop étroite. L'excellence de l'amour, c'est l'amour du moi qui détruit notre paix. Aussi longtemps que ce moi est vivant, nous le défendons contre la mortification et l'insulte. Mais lorsque nous sommes morts et que notre vie est cachée avec le Christ en Dieu, nous ne prenons plus à cœur les manques d'égard ou d'estime. Nous devenons sourds et aveugles aux brimades, aux moqueries et aux insultes. La charité est patiente, elle est pleine de bonté. La charité n'est point envieuse. La charité ne se vante point, elle ne s'enfle point d'orgueil, elle ne fait rien de malhonnête, elle ne cherche point son intérêt, elle ne s'irrite point, elle ne soupçonne point le mal, elle ne se réjouit point de l'injustice, mais elle se réjouit de la vérité. Elle excuse tout, elle croit tout, elle espère tout, elle supporte tout. La charité ne périt jamais. La seule sécurité de l'âme, songeons à la puissance ennoblissante des pensées pures. C'est là que réside la seule sécurité de l'âme. Un homme est tel que sont les pensées de son âme. On parvient à se maîtriser par l'exercice. Ce qui paraît tout d'abord difficile devient facile par la répétition constante. C'est ainsi que les bonnes pensées et les bonnes actions deviennent habituelles. Si nous le voulons, nous pouvons nous détourner de tout ce qui est vil et mesquin, et nous élever jusqu'à un haut idéal. Nous serons alors respectés des hommes et aimés de Dieu. L'exemple inqualifiable des Cananéens, Dieu montra aux Israélites les résultats du commerce avec les esprits malins en plaçant sous leurs yeux les abominations des Cananéens, qui étaient sans affection naturelle, idolâtres, adultères, meurtriers, abominables par leurs pensées et leurs actions révoltantes. La mort est le fruit de la méchanceté, l'esprit de haine et de vengeance, dont Satan est l'auteur, fit mettre à mort le Fils de Dieu. Quiconque ouvre son cœur à la rancune et à la malveillance y accueille un esprit dont les fruits sont mortels. Le mal y est enfermé comme la plante l'est dans la semence. Quiconque hait son frère est un meurtrier, et vous savez qu'aucun meurtrier n'a la vie éternelle demeurant en lui. Besoin de bonnes amitiés, nombreux sont ceux qui pourraient être préservés des mauvaises influences s'ils bénéficiaient de bonnes relations, et si on leur adressait des paroles de bienveillance et d'amour. Un lien mystérieux, dans nos institutions, où beaucoup de personnes travaillent ensemble, l'influence des fréquentations est très grande. On recherche naturellement la société des autres. Chacun trouve ou se fait des amis. Et la plus ou moins grande influence en bien ou en mal est proportionnée à la force de l'amitié qui unit les uns et les autres. Un lien mystérieux unit les cœurs des hommes et confond leurs sentiments, leurs goûts et leurs principes. L'un s'inspire de la pensée et imite les manières d'agir de l'autre. De même que la cire garde l'empreinte du sceau, ainsi l'esprit conserve les impressions produites par la fréquentation et la société des autres. Cette influence peut être inconsciente, mais elle n'en est pas moins importante. L'homme, un être sociable, le Seigneur a fait de l'homme un être sociable. Il voudrait que nous soyons pénétrés de la nature bienveillante et aimante du Christ et que par nos relations nous soyons intimement liés les uns aux autres en tant qu'enfants de Dieu, accomplissant une œuvre pour le présent et pour l'éternité. Les fruits de la jalousie, ils, les ennemis du Christ, virent que la majesté, la pureté et la beauté de la vérité, ainsi que sa profonde et douce influence, s'emparaient de nombreux esprits et que l'amour et la tendresse du Sauveur lui gagnaient tous les cœurs. Les rabbins comprirent que sa doctrine allait anéantir leur enseignement en renversant le mur qui les séparait du peuple et qui flattait tant leur orgueil et leur exclusivisme. Aussi, redoutant qu'il n'attirât tous les hommes à lui si on ne l'en empêchait, devenant nettement hostile, ils guettèrent l'occasion de le décrier aux yeux du peuple et permirent ainsi au Sanhédrin de le condamner à mort. Fréquentation et caractère, on a pu dire à juste titre, « Dis-moi qui tu fréquentes, et je te dirai qui tu es ». Les jeunes ne se rendent pas compte à quel point leur caractère et leur réputation dépendent du choix de leur fréquentation. On recherche naturellement la compagnie de ceux dont on partage les goûts. Celui qui préfère la compagnie des ignorants et des dépravés à celle des sages et des vertueux montre par là que son caractère est défectueux. Ses goûts et ses habitudes peuvent dans un premier temps être tout à fait différents des goûts et des habitudes de ceux dont il recherche la compagnie, mais à mesure qu'il fréquente cette catégorie de personnes, ses pensées et ses sentiments changent. Il en vient à sacrifier les bons principes et tombe insensiblement mais inévitablement au niveau de ceux qu'il fréquente. De même qu'un cours d'eau s'imprègne du sol à travers lequel il s'écoule, de même les principes et les habitudes des jeunes s'imprègnent du caractère de ceux qu'ils fréquentent. Une relation que chacun doit apprécier à sa juste valeur, Dieu nous a liés les uns aux autres en tant que membres d'une seule famille, et chacun a le devoir de cultiver cette relation. Il est des services dus à autrui que l'on ne saurait feindre d'ignorer si par ailleurs on observe les commandements de Dieu. Vivre, penser et agir uniquement pour soi, c'est se disqualifier comme serviteur de Dieu. Les titres pompeux et les grands talents ne sont pas indispensables pour devenir de bons citoyens ou des chrétiens exemplaires. Lien profond entre mère et enfant, le lien terrestre le plus tendre est celui qui existe entre la mère et son enfant. Celui-ci est plus volontiers influencé par la vie et par l'exemple de sa mère que par ceux du père. Car un lien plus fort et plus tendre les unit. Les mères ont une lourde responsabilité. Si je pouvais leur faire comprendre l'œuvre qu'elles peuvent accomplir dans la formation de l'esprit de leurs enfants, j'en serais heureuse. Jésus-Christ, l'exemple sans défaut, nos fréquentations sont d'une grande importance. Nous pouvons nouer beaucoup de relations agréables et utiles, mais nulle n'est aussi précieuse que celle qui permet à l'homme fini d'entrer en rapport avec le Dieu infini. C'est ainsi que les paroles du Christ demeurent en nous. Il en résultera un cœur purifié, une vie marquée par la prudence et un caractère sans faille. Mais c'est uniquement par la connaissance et la relation avec le Christ que nous pouvons devenir comme lui, l'exemple sans défaut. Le devoir des médecins, le docteur qui se montre digne d'être placé comme médecin-chef d'un établissement hospitalier accomplira une œuvre importante. Mais ses efforts dans le domaine religieux devraient toujours être d'une nature telle que l'antidote divin pour la guérison des âmes malades du péché soit présenté aux patients. Tous les médecins devraient comprendre qu'une telle œuvre devrait être accomplie avec délicatesse et sagesse. Dans nos établissements où des malades mentaux sont admis pour être soignés, les paroles de réconfort et de vérité adressées aux êtres angoissés seront souvent un moyen de tranquilliser l'esprit et d'apaiser l'âme. Un don de Dieu, tout élan, toute aspiration vers le bien est un don de Dieu. Seule la vie qui vient de Dieu, et que nous acceptons par la foi, peut nous permettre réellement de croître et d'être efficace. Choisir le bien à tout prix, l'amour d'autrui, principe de base du royaume de Dieu, est détesté de Satan. Il en refuse l'existence. Dès le début de sa lutte contre Dieu, il a cherché à prouver que les mobiles de Dieu étaient égoïstes, et il procède de la même façon avec tous ceux qui servent Dieu. L'œuvre du Christ et de tous ceux qui portent son nom est de démontrer la fausseté des revendications de Satan. C'était pour donner par sa propre vie une illustration de l'amour d'autrui que Jésus est venu sur terre sous forme humaine. Et tous ceux qui acceptent ce principe sont appelés à être ouvriers avec Dieu en l'appliquant dans leur vie quotidienne. Choisir le bien parce que c'est le bien, défendre la vérité au prix de souffrance, de sacrifice, tel est l'héritage des serviteurs de l'Éternel, telle est la justice qui leur vient de moi, oracle de l'Éternel. Le monde redevable à la loi divine, pour tout ce qui rend possible la confiance et la collaboration, le monde est redevable à la loi divine, telle que la donne la parole, cette loi dont il subsiste encore des traces, souvent bien légères, presque effacées, dans le cœur de l'homme. La vraie réussite, si nous entretenons avec Dieu des relations convenables, nous réussirons partout où nous allons. C'est réussir que nous voulons, et non pas gagner de l'argent, pleinement réussir, et Dieu nous accordera cela parce qu'il connaît tous nos sacrifices et nos renoncements. Vous pouvez penser que votre renoncement est sans conséquence, et que l'on devrait avoir plus de considération pour vous. Mais Dieu sait apprécier ces choses. Il m'a été montré souvent que lorsque quelqu'un entreprend la course au salaire, il se place dans une position défavorable. Mais quand il accepte un salaire attestant un esprit de sacrifice, le Seigneur voit le renoncement et il donne succès et victoire. Cela m'a été présenté plusieurs fois. Le Seigneur, qui voit dans le secret, récompensera publiquement tout sacrifice que ses serviteurs éprouvés auront consenti. Ne pas faire confiance aux richesses, nombreux sont ceux qui croient trouver la sécurité dans les richesses d'ici-bas. Le Christ s'efforce d'ôter de leurs yeux la paille qui obscurcit leur vision pour leur permettre de contempler au-delà de toute mesure un poids éternel de gloire. Ils prennent les fantômes pour des réalités, et ils ont perdu de vue les gloires du monde éternel. Le Christ les engage à porter leur regard au-delà du présent et à ajouter l'éternité à leur vision. Notre seule sécurité, Satan sait très bien que toute la puissance de l'armée des ténèbres ne peut rien contre l'âme la plus faible qui se cramponne à Jésus-Christ, et que, s'il l'attaquait ouvertement, il essuierait une défaite. Alors, embusqué avec ses suppôts, il s'ingénie à faire sortir les soldats de la croix hors de leur forteresse, prêts à abattre tous ceux qui s'aventureront sur son terrain. Notre seule sécurité se trouve dans une humble confiance en Dieu et dans une obéissance intégrale à tous ses commandements. Dieu offre la sécurité, Dieu veut que nous préférions les réalités célestes aux réalités terrestres. Il nous donne l'occasion de faire un placement à la banque du ciel. Il encourage nos aspirations les plus élevées et désire mettre en lieu sur nos plus chers trésors. Il déclare, « Je rendrai les hommes plus rares que leur faim, je les rendrai plus rares que leur d'Ophir. » Quand les richesses que la teigne et la rouille détruisent n'auront plus aucune valeur, les disciples du Christ seront heureux de posséder au ciel un trésor inépuisable. L'influence sanctifiante de la vérité, la seule sécurité pour toute âme est une pensée juste. Nous devons utiliser tous les moyens que Dieu a placés à notre portée pour maîtriser et cultiver nos pensées. Nous devons mettre nos pensées en harmonie avec sa pensée. Sa vérité nous sanctifiera, corps, âme et esprit, et nous serons capables de surmonter la tentation. Les paroles que nous prononcerons seront des paroles de sagesse. Vérité et santé, quand un homme, esclave pendant longtemps d'habitudes mauvaises et coupables, est touché par la puissance de la vérité divine opérant dans son cœur, ses facultés morales, apparemment paralysées, reprennent vie. Il possède alors une faculté de raisonnement plus vigoureuse et plus claire que lorsqu'il n'avait pas encore attaché son âme au rocher éternel. Même sa santé physique, du fait du sentiment de sa sécurité en Christ, s'en ressent. La bénédiction spéciale que Dieu fait reposer sur lui apporte elle aussi santé et vigueur. Le pardon libérateur, le paralytique trouva en Christ la guérison de l'âme et du corps. Avant que la maladie physique puisse être guérie, le Christ devait apporter le repos de l'esprit et purifier l'âme du péché. Cette leçon ne doit pas être négligée. Il y a aujourd'hui des milliers de gens souffrant de maladies physiques qui, comme le paralytique, soupirent après ces paroles, « Tes péchés te sont pardonnés ». Le fardeau du péché, avec son angoisse et ses désirs insatisfaits, est à l'origine de leur maladie. Ils ne peuvent trouver aucun repos tant qu'ils ne viennent pas au médecin de l'âme. La paix que lui seul peut donner restaurera la vigueur de l'esprit et du corps. Le ministère des anges, les anges, qui feront pour vous ce que vous ne pouvez pas faire par vous-même compte sur votre coopération. Ils attendent que vous répondiez à l'attrait qu'exerce le Christ. Approchez-vous de Dieu et approchez-vous les uns des autres. Par la prière silencieuse, par le désir de résister aux agents sataniques, rangez votre volonté du côté de la volonté de Dieu. Si vous êtes déterminé à résister au malin, et que vous priez sincèrement, « Délivre-moi du mal », vous obtiendrez la force requise pour votre journée. Le ministère des anges du ciel consiste à s'approcher de ceux qui sont éprouvés, tentés, et qui souffrent. Ces messagers célestes travaillent sans relâche pour le salut des âmes en faveur desquelles le Christ est mort.